Radio Okapi.
Le journal avec Pascal Masserica.
À la une de l'actualité, fin ce mardi à Kinshasa de la réception des candidatures pour les élections provinciales. La CENI persiste et signe, aucune prolongation ne sera accordée en dépit de l'engouement constaté en dernière minute. Le député national Mouindo Nzangi plaide pour l'implication du président Yoweri Museveni Kaguta dans le règlement du conflit entre les FARDC et la marine ougandaise autour du lac Édouard. Requête formulée dans une lettre adressée à partir de Goma. Notre invité ce soir, c'est le gérant de la Société des techniques spéciales chargée de la construction des centrales pour l'électrification des villes de Butembo et de Beni au Nord Kivu. Madame, Messieurs, bonsoir. C'est aujourd'hui que s'achève ici à Kinshasa la réception des candidatures pour l'élection provinciale. Les députés provinciaux, les bureaux de réception et de traitement des candidatures visitées aujourd'hui sont restés ouverts jusqu'au soir. Le président d'un des bureaux de réception et de traitement des candidatures affirme qu'aucune prolongation ne sera envisagée en dépit de l'engouement constaté en dernière minute dans certains bureaux qui ont été visités aujourd'hui. Un reportage de Jeff Ngoy.
Au BRTC de Limité, installé à la maison communale de Lemba, les services de la CENI s'activent à recevoir en dernière minute les dossiers des candidats retardataires. Tout se passe normalement. Le chef de ces bureaux, Emery Bakatusunga, explique le travail réalisé jusqu'ici et donne quelques statistiques provisoires.
Nous avons 6 circonscriptions. Limité, Lemba, Matete, Kisenso, Ngaba et Makala. Nous avions émis à la clôture du dimanche le 8, 115 jetons. Mais jusqu'hier, il n'y a eu que 8 jetons qui nous sont retournés. Aujourd'hui, c'est la clôture de tous les jetons. Celui qui ne se serait pas présenté, nous ne saurons plus recevoir les jetons.
Combien de candidatures?
Moi, je crois que c'est une vingtaine qui sont déjà enregistrées, déjà saisies. Sur l'ensemble de 8 jetons déjà reçus.
Quelques candidats comme cette femme de l'ATD rencontrée au BRTC de Kalamu disent ne pas être en retard et plaident pour plus de candidatures féminines au sein de leur parti.
C'est Maître Mbuindaya Hélène du parti politique ATD. Bon, moi, je suis venue les derniers jours parce que on m'a surpris que je n'étais pas classée. Il n'y a pas eu assez de femmes. Elles dorment encore. Je suis pris de sensibiliser encore la femme.
C'est le cap vers les élections. 780 députés provinciaux sont à élire le 23 décembre prochain.
Politique encore, depuis le 30 juin dernier, les jeunes katumbistes ont déjà récolté à Lubumbashi 20 000 signatures dans une pétition initiée contre l'usage de la machine à voter en RDC. Le vice-président de ce collectif indique à Radio Okapi que cette opération va s'étendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Robert Bikunga le dit à Pont les Mounanga.
C'est une affaire qui concerne tout le monde, qui concerne et la population et les politiciens eux-mêmes. Alors nous, COGECA, collectif des jeunes katumbistes, nous nous sommes dit, nous pouvons aussi nous intéresser à cette affaire. Et on a lancé cette pétition pour dire non à cette machine à voter. Avec cette machine à voter, nous nous disons qu'il peut toujours avoir tricherie. Après une semaine, je pense qu'on peut atteindre les 22 000 signatures. Jusque-là, on est encore à Lubumbashi. Et après Lubumbashi, on ira sur toute l'étendue de la province du Katanga, soit le Grand Katanga. Et après... sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous comptons avoir 1 million de signatures avant la fin du mois de novembre, comme les élections sont prévues au mois de décembre 23. Après avoir réuni 1 million de signatures et plus, parce qu'on en aura, hein, les gens qui aiment Moïse et les gens qui disent non à cette machine à voter sont aussi nombreux, on prendra ces signatures et on ira déposer nos carnets, hein, avec les 1 million de signatures auprès de l'Assemblée nationale à Kinshasa qui va statuer et se dire que la population est contre cette machine à voter.
Au Nord Kivu, la situation est qualifiée d'incertaine dans le nord du lac Édouard depuis les incidents survenus le week-end dernier impliquant les FARDC à la marine ougandaise. Dans une lettre adressée au président ougandais, le député national Mouindo Nzangi demande l'implication personnelle de Yoweri Museveni Kaguta pour régler ce conflit qui risque d'avoir des conséquences néfastes selon ce député national. À Goma, Bernard Denyangi.
Depuis ces incidents le 6 juillet dernier, aucune action n'est prise officiellement par le gouvernement congolais pour résoudre cette question par la voie diplomatique, déplore le député Mouindo Nzangi. Celui-ci pensait que la marine ougandaise, qui aurait elle aussi déjà fait des arrestations de pêcheurs congolais, un fonds de commerce, donne des rapports biaisés à son président. Le député national congolais voudrait donc éclairer la question. Mouindo Zangi.
Le sida de 6, c'est un sida grave. Il y a eu des échanges de tirs. L'armée congolaise a abattu un navire militaire ougandais. Bon, il y a eu mort d'homme. Le gouvernement congolais devait déjà agir par des voies diplomatiques. La marine ougandaise a malheureusement, elle aussi, fait des représailles sur les pêcheurs inoffensifs non armés congolais. C'est pour ça que j'ai proposé au président d'Ouganda qu'on puisse créer une commission d'harmonisation des textes réglementaires sur le lac Édouard. Il faut qu'il y ait des commissions mixtes de patrouilles.
Rappelons qu'environ 20 pêcheurs congolais restent portés disparus depuis samedi dans cette région du lac Édouard. C'était au lendemain de ces accrochages entre la force navale congolaise et des présumés marins ougandais qui ont fait au moins 5 morts côté ougandais et 2 blessés côté congolais. Jusque-là, les familles des disparus à Kevin Yongé ne peuvent rechercher les leurs du fait que la zone est déclarée rouge. Goma, Bernard Nyangui, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la suspension ce mardi matin du trafic au poste frontière de Kassindi-Loubiria entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda à plus ou moins 90 km à l'est de Beni. C'est après une altercation entre 3 Congolais et les services de sécurité de l'Ouganda. C'est Kombi Katondolo.
Tout est parti d'une altercation entre les agents des services de sécurité ougandais et 3 Congolais, dont 2 femmes et un garçon, en provenance de l'Ouganda pour l'achat de leurs marchandises. Les sources de la police nationale congolaise indiquent que c'est au niveau de la deuxième barrière située sur le pont Loubiria que ces 3 Congolais ont été arrêtés par le service de sécurité ougandais pour vérification de leurs identités et titres de séjour, chose qui a tourné au vinaigre et a engendré une bagarre entre ces agents de sécurité ougandais et ces 3 Congolais qui seront ensuite acheminés au poste de la police ougandaise de la place où ils ont été entendus. Selon toujours la même source, une délégation de la RDC s'est rendue en Ouganda où des discussions sont présentement en cours pour leur libération. Signalons que, pour l'instant, le trafic reste suspendu entre la RDC et l'Ouganda au poste frontière de Kassindi suite au mouvement de soulèvement de la population de la commune rurale de Kassindi qui réclame la libération sans condition de leurs compatriotes. Beni, c'est Kombi Katondolo, Radio Okapi.
Pendant ces temps au Kasaï central, le chef de groupement Anna Kanjimbi, dans les territoires de Luisa, appelle les autorités provinciales à mater au plus vite des présumés miliciens dirigés par un certain Albert Mwanda Mwanda. Selon Philippe Bouélika, s'agit ces miliciens qui sont retranchés dans la brousse, se livrent quotidiennement à des exactions contre les habitants. Il s'est confié à Blaise Ndongala.
Je demande à l'autorité provinciale de s'impliquer dans ces conflits à Anna Kajimbi Kachour dans le secteur de Kalunga, territoire de Luisa. L'homme avait disparu avec les armes. Il sort de la brousse, érige des barrières sur la route et juge les gens. Je demande aux autorités de s'impliquer pour mettre la main sur cet homme qui n'est pas reconnu par le pouvoir public. C'est un chef milicien. Nous voulons la paix dans le groupement Anna Kajimbi Kachour.
Contacté à ces sujets, le ministre provincial de l'Intérieur du Kasaï central ne reconnaît pas l'existence d'une quelconque milice à Luisa. Mathieu Ntoulou note que les FARDC qui sont ces jours-ci cantonnés dans les 2 postes du secteur de Kalunga n'ont pas cette nouvelle. En Ituri, les agents et cadres du gouvernement provincial ne sont pas payés depuis 13 mois. Certains ont décidé de sécher le travail depuis hier lundi et d'autres ont carrément démissionné. Des acteurs politiques de cette province parlent d'une situation inacceptable. C'est ce que nous raconte Jean-Claude Lokidile.
C'est avant midi, par exemple, la cour du gouverneur a été quasiment vide. C'est le même décor qui est observé au cabinet des ministres. La plupart des agents ne se présentent plus au service, nous a confié l'un d'eux qui a requis l'anonymat. Il affirme qu'il revendique 13 mois d'arriéré. Un autre précise que la dernière fois qu'il a touché la totalité de son salaire remonte au mois de janvier dernier. Toutes les catégories d'agents du gouvernorat sont concernées par l'impaiement des salaires. Un des acteurs politiques de l'Ituri, Gracien Iratian, qualifie cette situation d'inacceptable. Il s'interroge sur l'affaire des recettes perçues par la DGRPI, Direction Générale des Recettes de l'Ituri.
Tous les personnels sont pratiquement fâchés. Ils ne sont pas dans de bonnes conditions pour pouvoir travailler. Et au même moment, ils ont soumis leurs préoccupations au niveau de l'autorité provinciale qui malheureusement se fâche en disant tout simplement qu'il n'y a pas d'argent. Nous, ça nous inquiète beaucoup, surtout qu'il y a des taxes qui circulent partout au marché. Il y a de l'argent qui sont perçus à travers différents territoires. On ne peut pas être incapable même de payer son propre personnel au niveau niveau de l'administration. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'il doit nous répondre.
Toutes nos tentatives pour joindre Abdallah Penembaka, gouverneur de province de l'Ituri, n'ont pas abouti, signalant que ce dernier séjourne à Kinshasa depuis environ un mois, où il est en mission de service. Bounia, Jean-Claude Lokedile, Radio Capi.
Et puis, début ce mardi à Kalemi d'une formation des travailleurs du projet ProRoute sur la prévention des violences sexuelles basées sur le genre et la protection des victimes. C'est le fruit du partenariat entre la commission diocésaine Justice et Paix et le ministère des Travaux Publics. 149 agents travaillent sous la route nationale numéro 5 entre la localité de Kasomeno dans le Haut-Katanga et la cité d'Ouvira au sud Kivu. Des précisions avec un membre de cette commission, André Sompo, interrogé par Expedimo Mamoubi.
C'est une activité qui a été financée par la Banque mondiale à travers la cellule des infrastructures et la CDJP, c'est une ONG qui va s'en charger pour la formation. Et cette formation s'accadre sur les exploitations et abus sexuels. Donc c'est juste le constat amer qui a été fait par la Banque mondiale à travers la réhabilitation de la route numéro 5 pour la première tranche. Alors, il y avait vraiment des grossesses, il y avait des enfants non désirés, il y avait vraiment des abus et exploitations sexuelles qui ont été remarqués. Alors c'est alors que la Banque mondiale a dit que avec cette réhabilitation de la deuxième tranche, il faudrait que les agents soient formés, ils soient avisés pour qu'ils soient aussi les formateurs et les informateurs de ceux-là qui restent dans les axes là où ils vont intervenir.
Dans la province de l'Équateur, le curé de la paroisse catholique d'Itipo, rescapé de la maladie à virus Ebola, séjourne à Mbandaka depuis hier lundi. Le président des vainqueurs de cette épidémie demande que le bureau attribué par le gouverneur de province à cette association reste leur siège national. Le père Lucien Ambongo affirme à Radio Capi que cela permettra de rester en contact permanent avec les rescapés et les orphelins. Il est au micro de Paul Richard Malé.
La motivation est d'abord double. D'abord, c'est la province qui a beaucoup plus encaissé les cas de cette épidémie. 4 fois, c'est beaucoup. Et qui a aussi l'effectif un peu élevé par rapport au nombre de guéris de cette épidémie. Les victimes aussi. Il y a aussi des orphelins. Deuxièmement, c'est pour nous faciliter aussi quand on aura besoin de rassemblement général. Nous lançons déjà appel à nos partenaires qui veulent chercher l'association, les membres de l'association, les présidents. Nous avons maintenant une direction. C'est à Mbandaka maintenant, en face des commandements ville, pour les partenaires qui peuvent quand même nous aider par rapport au transport et le déplacement. Vous voyez que la majorité des guéris, c'est d'abord ici au Grand Équateur.
J'ajoute que cette association a été récemment approuvée par le ministère de la Santé publique ici à Kinshasa. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a partagé ce mardi ici à Kinshasa sa nouvelle approche sur ses interventions dans les zones post-conflit. C'était au cours d'un échange avec les agences onusiennes, les bailleurs de fonds et le gouvernement congolais représenté par le ministre d'État à la décentralisation. Cette approche consiste à combiner les interventions dans les domaines humanitaires, de stabilisation et de développement durable. Le compte-rendu de Jean-Pierre Elali Koko.
Selon le directeur pays du PNUD, Dominique Sam, l'expérimentation et le renforcement de cette nouvelle approche se feraient au niveau des provinces pilotes sorties des conflits. Il s'agit donc, précise-t-il, de créer des passerelles entre l'humanitaire, la stabilisation et le développement durable afin d'avoir des impacts concrets de développement dans ces zones sorties des conflits. Qui dit développement à la base dit aussi décentralisation. C'est pourquoi le ministre d'État à la décentralisation, Azarias Rouberoy, demande aux agences des Nations Unies et aux autres bailleurs de fonds d'axer leurs interventions plus sur le développement que sur l'humanitaire au niveau local et provincial.
Mais les bailleurs de fonds globalement sont plus dans l'humanitaire, mais on ne développe pas le pays avec l'humanitaire. L'humanitaire est passager, c'est ça. Si le développement ne vient pas, même celui que vous avez sauvé par l'humanitaire, évidemment il repart ou il part définitivement. Notre pays, notre gouvernement ont bien fait d'avoir toutes ces structures des bailleurs de fonds, mais ils doivent transcender ce qui est humanitaire et nous aider à asseoir le développement durable à la base.
Le PNUD soutient le développement humain en RDC dans 3 piliers, à savoir le développement durable, l'état des droits et la protection des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques.
L'actualité en plus bref, le nouveau vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique est attendu demain mercredi ici à Kinshasa. Ce sera pour une visite de 3 jours. Hafez Ghanem va rencontrer ici les autorités de la RDC, les partenaires au développement et les acteurs de la société civile. Son agenda prévoit aussi des visites de terrain pour apprécier personnellement l'évolution de certains projets financés par la Banque mondiale au Nord Kivu et dans la capitale congolaise.
Actualité Afrique Monde.
L'Union africaine affirme que la normalisation des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée est un pas important vers la paix et la sécurité dans la région de la Corne de l'Afrique et même dans tout le continent africain. Ce point de vue est partagé par l'Union européenne. Ce n'est pas pour des prunes que ces deux pays voisins font la une de l'actualité et mise en vedette par les organisations internationales. Soupçonnés de complicité avec Boko Haram, 183 enfants ont été libéré hier lundi après-midi à Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, au nord-est du Nigeria. Annonce faite aujourd'hui par le Fonds des Nations Unies pour la protection de l'enfance dans un communiqué. Ces enfants ont été libérés après avoir été lavés de soupçons qui pesaient sur leurs liens supposés avec les djihadistes. Ils ont reçu à cette occasion un soupçon, un soutien psychologique complet, des conseils spéciaux, un soutien médical et une réadaptation avant leur réintégration dans la société. Enfin, sachez que les députés kényans ont opposé une fin de non-recevoir à une pétition portant sur le plafonnement de l'âge pour la candidature à l'élection présidentielle. Un ouf de soulagement pour des acteurs politiques septuagénaires désireux de participer à la présidentielle programmée en 2022. L'article 260 de la Constitution du pays n'a pas été amendé afin de limiter l'âge du candidat à cette élection.